Ce morceau de Django Reinhardt évoque la libération de la France.
Libération faite avec beaucoup de combats et d'actions armées. Mais avant, dès 1942, la France libre se renforce afin de participer au premier combat de la libération et prouver sa valeur à ses alliés. Il y a le cas du Corps franc d'Afrique qui intervient en Tunisie contre les forces de l'Axe. Fin 1943, c'est plus de 120 000 hommes du corps expéditionnaire français qui s'engagent dans la campagne d'Italie.
Les actions des forces françaises libres permettent donc aux alliés de reconnaître l'importance de la France pour la libération de son propre territoire. Pour autant, au départ, rien n'était gagné. Les forces alliées ne croyaient pas en cette armée. Mais les parachutages de matériel en mai-juin 1944 prouvent que les alliés donnent une importance aux forces françaises intérieures et au grand maquis.
Le débarquement en Normandie du 6 juin 1944 marque le début de l'assaut décisif. Le général de Gaulle nous le rappelle dans son célèbre discours à la BBC.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
À partir de cet appel, les FFI lancent des actions dans le but de ralentir les ripostes allemandes.
D'ailleurs, ces actions de drôles de noms, tortue, vert ou violet, quelle imagination!
En effet, les FFL et FFI participent ainsi activement à la libération du territoire national. Le 15 août 1944, le général Lattre de Tassigny débarque en Provence, puis remonte avec son armée en Alsace.
Cela entraîne la libération de villes telles que Marseille le 29 août 1944 ou Lyon le 3 septembre 1944. Strasbourg est libre bien plus tard car les combats en Alsace et dans les Vosges sont très durs.
La ville devient libre fin novembre 1944, libérée par l'armée du général Leclerc, le même qui avait libéré Paris le 25 août.
Encore un discours célèbre du général de Gaulle.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
On entend bien dans cet extrait qu'il s'agit de mettre en avant le rôle des Français dans la libération de la France et leurs unités.
D'ailleurs, Colmar est libéré le 3 février 1944 par la première armée. L'occupant ne tient plus que des villes comme Saint-Nazaire, Lorient et Dunkerque.
Les généraux français en profitent pour participer à l'invasion de l'Allemagne.
Les FFI jouent eux aussi un rôle dans la libération du territoire national. Rien n'aurait été possible sans tous les volontaires engagés dans les maquis, mais ce n'était pas simple pour eux, puisque l'occupant allemand et le régime de Vichy mènent des opérations de répression pour terroriser la population et priver la résistance de soutien. Cela n'empêche pas de grands rassemblements de maquisards, comme au Montmoncher ou dans le Vercors. D'ailleurs, Lola et Chloé vont nous en dire un peu plus sur un rassemblement oublié de résistants au sud du Puy-de-Dôme.
En 1944, les responsables du MUR, Mouvement Uni des Résistances, songent à des rassemblements pour éloigner les maquis des forces de répression. Il s'agit aussi d'aider les alliés quand ils débarqueront. Le but est de gêner les convois allemands qui remonteraient vers la zone de débarquement.
Vous avez déjà sûrement entendu parler du rassemblement du Montmoucher, mais avez-vous connaissance de celui de Saint-Genès-Champeps? Ce nom est celui d'un petit village situé à l'extrémité du sud du Puy-de-Dôme, à la limite du Cantal. Sa création a été décidée par le comité régional de libération conduit par Émile Coulaudon. Ainsi, il ne faisait pas partie du plan Caïman.
Du plan quoi ?
Du plan Caïman. Ce plan concernait les opérations que les FFI devaient mener pour participer à la libération du territoire et à l'appui des alliés. Il est validé par De Gaulle en mai 1944. Mais raconte-nous plutôt, Lola, comment ce rassemblement a été formé et pourquoi les environs de Bourlastic sont concernés par celui-ci.
des résistants de plusieurs villages comme Bourlastic, Messey, mais aussi Tove et d'autres encore se rendirent à Saint-Genès-Champeps. Willy Mabru avait en effet donné l'ordre à tous les volontaires de participer à ce rassemblement. Ainsi, le 14 mai 1944, à la foire de Messey, Alfred Pabiot, instituteur, inscrit les volontaires. Il y avait une cinquantaine de mineurs. Le 15 mai, il quitte Messey à bord de véhicules de la mine et emmène avec eux le docteur Moreau et Alfred Pabiot.
Arrivés sur place, les résistants trouvent des logements qui étaient en réalité de vieilles granges. Des postes de garde devaient rendre les passages du village très contrôlés.
À ses débuts, le camp était très bien encadré. Mais il fallait aussi assurer l'approvisionnement. 15 maquisards étaient ainsi chargés de la fabrication du pain. Le camp disposait aussi d'un service médical. Bien entendu, les maquisards devaient être armés. Ils récupéraient, pour ça, les armes parachutées par les alliés. Il y avait plusieurs types d'armes. Grenades, fusils mitrailleurs et mitraillettes Hotchkiss.
Très bien Lola, mais explique-nous quelles actions ont mené les maquisards de ce rassemblement.
Je parlais des conditions de vie. Eh bien, il semble que les couvertures manquaient. Il est donc décidé d'aller en récupérer à la gendarmerie de Besse. Les maquisards partent vers ce village. Mais à leur arrivée, les gendarmes se sont enfermés par peur d'être exécutés. Des négociations ont donc eu lieu et les couvertures sont finalement déposées devant la porte.
Mais ce n'est sans doute pas leur seule action ?
Non. En plus des expéditions pour récupérer du carburant, les maquisards décident de libérer 43 personnalités internées à l'hôtel international au Mont d'Or. Ainsi, le 6 juin 1944, Willy Mabru et ses hommes attaquent la villa Ramad, où se trouvent 62 gendarmes. Puis, ils se rendent à l'hôtel. Après avoir libéré les personnalités, ils les conduisent au camp. Mais ces dernières ne furent guère satisfaites des conditions de vie.
Pas très reconnaissantes. Est-ce que tu peux nous dire sur l'attaque de Murat ? Ce n'est pas les résistants de Saint-Genès-Champeps qui ont mené cette attaque le 12 juin 1944 ?
Si, Tonio et Irma, deux résistants du coin, sont avertis de l'arrivée des Allemands dans Murat. Ils décident donc de partir pour Saint-Genès-Champeps en espérant que des hommes leur seront prêtés pour partir avec eux. C'est le cas, puisqu'un commandant de 45 hommes les accompagne. Durant leur attaque, le chef régional des services de renseignement, Hugo Geisler, ainsi que plusieurs membres de la Gestapo sont tués.
Les maquisards de ce rassemblement menèrent quand même plusieurs actions. Mais pourquoi ce rassemblement a-t-il été dispersé et finalement oublié ?
Le camp souffre d'un manque d'encadrement après une arrivée massive de volontaires de Clermont, de Rion. En fait, de toute l'Auvergne. L'encadrement commence alors à devenir insuffisant. Autre problème, parmi ces volontaires se cachent aussi des mouchards de la milice. De plus, les Allemands sont au courant de l'existence du camp et préparent son encerclement. C'est pour cela que des responsables du camp, comme Willy Mabru, décident de le dissoudre.
Pourquoi dissoudre le camp ?
Pour éviter des pertes humaines, très importantes, en cas d'attaque. En effet, les résistants manquaient d'armement. Les résistants venus de Messey et de Bourlastic se divisent et forment de nouveaux maquis pour continuer leur guérilla. Pour eux, la route de retour est sans encombre, ce qui n'est pas le cas de jeunes de la région de Pont-au-Mur qui rencontrent les Allemands sur leur route le 13 juin 1944. 3 sont fusillés, 7 faits prisonniers et torturés par la Gestapo.
Place maintenant à Judith et Kelly. Elles vont parler des différents mouvements de la guérilla.
Après l'échec des grands rassemblements, des zones de guérilla sont créées. Plus adaptées pour attaquer les convois, des Allemands comme nous, le rappelle M. Allègre.
De Bourlastic à Ussel, ce n'a été que des embuscades. Les maquisards avaient pris la 89 et choisi l'endroit pour mieux attaquer les Allemands. Nous autres, on était au pont de Chalon quand vous avez passé Aigurande. Vous allez sur Saint-Étienne-au-Clos où il y a un pont. Et à cette époque, il y avait des bois. Et on était dans les bois, on a attaqué le convoi ici.
Tu parles de zones de guérilla, c'est-à-dire des zones où les résistants harcelaient l'ennemi, comme le laisse entendre M. Allègre ?
C'est exact. Ils attaquaient souvent les convois ennemis pour ralentir ou empêcher leur déplacement. Il s'agissait parfois d'empêcher leur ravitaillement.
Comme au Chavanon, le 7 juillet 1944, à la frontière entre le Puy-de-Dôme et la Corrèze.
Ce jour-là, une section allemande doit ravitailler la garnison allemande d'Ussel, alors encerclée par les FTP. Elle est attaquée sur la route nationale 89.
Il s'est passé quoi ?
Eh bien, cette attaque se termine par la mort de 22 Allemands, selon M. Martre Eugène, qui écrit en 1998 l'ouvrage « L'Auvergne dans la tourmente ». Un milicien est également tué.
Il y a aussi l'attaque du pont du Fraisse le 17 août 1944.
Là où nous nous sommes rendus avec Monsieur Allègre, dans le fond d'un petit vallon, sur la route de Clermont-Ferrand.
Louis Juillard, qui a participé à construire cette attaque, nous raconte que les maquisards attaquent ce jour-là la colonne Gesser, composée de 180 camions qui se rend à Ussel. Mais ils ne savaient pas qu'il y en avait autant. Alors, ils ont laissé passer une première partie, 65 camions environ. Puis ne voyant plus rien arriver, ils pensent avoir laissé échapper le convoi. Quand ils entendent à nouveau des camions, ils attaquent. Dans cet endroit escarpé, les pertes pour les Allemands sont terribles. Du côté des maquisards, 7 d'entre eux sont tués. De plus, les Allemands incendient la ferme qui avait servi de cachette aux maquisards la nuit avant l'attaque.
Quant au reste de la colonne, vous l'avez compris en écoutant les extraits précédents, elle est attaquée plus loin, encore une fois dans les gorges du Chavanon et tout le long de la route jusqu'à Ussel. C'est pour ça que la colonne Gesser arrive trop tard pour délivrer les Allemands, pris au piège dans la ville par les FTP et les maquisards de l'armée secrète.
Heureusement, Monsieur Allègre nous a raconté que la bataille pour délivrer Ussel fut la plus marquante pour lui.
Ces combats à Ussel ont commencé le 16 août. Le 17, la bataille est gagnée contre la garnison au prix de plusieurs morts et blessés.
À la bataille d'Ussel, on s'était mis à côté de la poste d'Ussel avec une barricade. Vous avez vu les barricades dans les films. Et on était 6 ou 7 là. Mais le bâtiment était un peu trop en face de nous, ce qui nous a valu d'avoir des blessés, de nombreux blessés. Et j'ai un camarade, Paul Brugière, non pas Paul Brugière, il s'appelle Brugière, il passait dans une rue, et un mortier de 60 est tombé, et il a été tué sur le coup. On ne pensait pas que ça tomberait là. Les mortiers, c'est ça. Hein.
Mais après ces combats, la ville n'est pas encore complètement libérée, puisque la colonne Gesser arrive. Les maquisards ont pour ordre de se replier pour ne pas l'affronter frontalement. C'est le docteur Boisselet qui empêche la colonne Gesser de procéder à des représailles contre la ville. Sa colonne quitte la ville pour Égletons. Ussel n'est vraiment libérée que le 23 août.
En tout cas, ces exemples montrent comment les maquisards ont harcelé l'ennemi durant l'été 44 et participé à libérer le territoire. Beaucoup, comme Monsieur Allègre, ont ensuite rejoint la première armée française surnommée Rhin et Danube en raison de ses victoires le long de ces fleuves. L'intégration des FFI dans cette armée est appelée l'amalgame. Écoutons Brother in Arms de Dire Straits, chanson qui décrit les liens affectifs forts qui existent entre les combattants. Ils deviennent des frères d'armes.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though it had hurt me so bad,
sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the starlight, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms.
Ces renforcements de la résistance sous des actions de guérilla et de soutien aux alliés ne laissent pas les Allemands et le régime de Vichy sans réaction. Les actions de représailles se multiplient. La plus importante est sans doute l'arrestation de Jean Moulin en juin 1943, lors du transfert de ses cendres en 1964 au Panthéon. Le ministre de la Culture, André Malraux, rappelle dans son discours les souffrances infligées aux chefs de la résistance. Il n'oublie pas non plus tout ce qui s'engagèrent dans la lutte pour libérer la France. Écoutons André Malraux.
Le jour où au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Pour la terrible suite, écoutons seulement les mots si simples de sa sœur. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Comme le dit Mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé.
S'engager, comme nous venons de l'entendre, c'est donc s'exposer et exposer les siens à de terribles souffrances. Les nombreuses cérémonies sur les lieux d'attaque ou de représailles en témoignent encore.
D'ailleurs, souviens-toi de notre sortie dans les environs de notre collège. Beaucoup de stèles commémorent la mémoire de ceux qui ont été exécuté comme Paul Lepage. Il fut exécuté à 23 ans seulement, sur la route que beaucoup d'entre nous prennent chaque jour entre Meusse et Bourlastique. Même dans notre collège, deux plaques rappellent le drame le drame d'hommes fusillés par les Allemands le 15 juillet 1944, dont Louis Bolaton, instituteur, et le directeur du collège, Maurice Piette Ier.
Exact, et cela est à mettre en lien avec l'attaque du 7 juillet 1944 au Chavanon, dont Judith et Cali nous ont parlé tout à l'heure.
Que s'est-il passé ?
Eh bien, les troupes allemandes arrivent dès le 9 juillet à Verrières, près de Bourg-Lastic. Le maire avait fait transporter les corps des soldats abattus pendant l'attaque et déposer un bouquet de fleurs sur chacun d'entre eux.
Pour empêcher peut-être que les Allemands prennent des otages dans son village ?
Peut-être. En tout cas, c'est une dénonciation qui conduit les Allemands à Bourg-Lastic et à Messey au soir du 9 juillet. Tous les hommes sont alors rassemblés à la mairie. Parmi eux, des résistants. Des interrogatoires sévères ont lieu. Ils sont dirigés par le chef du service de sécurité du Reich, Hector Martin, qui connaît bien les habitants du bourg pour avoir séjourné au camp de Lastic avant-guerre. Les jours suivants, la rafle s'étend aux communes voisines.
Mais qu'est-ce qu'il arrive alors à tous ces gens retenus ?
Certains sont relâchés, d'autres non. 24 résistants sont condamnés à mort. 24 autres personnes sont arrêtées et envoyées à la prison de Clermont. Parmi les personnes arrêtées se trouve Madame Robin, agent de renseignement pour la résistance. Elle est déportée le 12 août 1944. Elle ne regagne la France que le 25 mai 1945.
Et les autres prisonniers ?
Certains sont dénoncés comme étant des résistants. Ils sont eux aussi déportés, au Struthof puis à Dachau. Mais deux en reviennent et l'un d'eux meurt quelques mois après. Mais ce n'est pas le pire, le 15 juillet, Hector Martin et le commandant des soldats allemands, le colonel Coqui, procèdent aux exécutions qu'ils ont décidées eux-mêmes. 23 hommes, dont le maire, Pierre Chassigny, âgé de 75 ans, sont exécutés au camp de Lastic. Une 24e personne est tuée le lendemain.
C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un monument au camp de Lastic. C'est en mémoire des martyrs de cette répression.
Cette répression touche donc aussi bien les résistants que la population sous des formes variées. Il faut penser à ceux qui ont subi aussi les tortures en prison. Je vous ai parlé de Maurice Fragier, dit Bibi.
Un résistant du maquis de l'Arfeuille, du maquis du Tonton ? Celui qui était en prison avec Jean Zé ?
C'est exact, et justement, il nous raconte dans ses mémoires son quotidien à la prison de Rion, où l'a côtoyé et tenté de faire évader cet ancien ministre de l'Éducation nationale. Ses cendres ont été transférées au Panthéon en mai 2015, quand la petite histoire rejoint la grande.
Que nous apprend-il ?
Il nous apprend que les conditions d'hygiène et de nourriture étaient épouvantables. Cela n'a pas empêché avec ses compagnons d'essayer de faire évader Jean Zé, en creusant un tunnel. Mais c'était un échec, comme on le sait. Jean Zé est peu de temps après lâchement assassiné par 3 miliciens dans l'Allier.
Mais alors, comment Bibi s'en est-il sorti ?
Eh bien, Bibi a dû faire face à la torture avant d'être délivré de façon astucieuse. Vous verrez comment tout à l'heure. Ainsi, il subit un interrogatoire dans un des sièges de la Gestapo à Clermont. Voici ce qu'il en raconte. Nous sommes dans la cave, avec Minot et Ronflette. Nous sommes battus. Le supplice est dur et bien connu. Il suffit de faire semblant d'être évanoui, alors on nous enfonce entre les côtes des aiguilles à tricoter. Dur de ne pas avoir de réaction visible.
Et malgré cela, il trouve le courage de s'enfuir.
Grâce à deux jeunes filles, et parmi elles, la propre fille du surveillant-chef. Des détenus leur font passer les plans de la prison, de Clermont et d'autres infos à faire passer aux résistants. Mission accomplie le 13 août 1944. Le commandant Lenoir, déguisé en chef de la Gestapo, escorté par quatre marquisards déguisés en allemand, se font ouvrir les portes de la prison. Ils réussissent à délivrer les prisonniers après avoir maîtrisé la garde.
Eh bien, quelle aventure ! Qu'en pensez-vous ?
Oui, tu peux le dire, mais souviens-toi que ce genre de dénouement ne fut pas toujours le cas, comme nous l'avons vu. La barbarie nazie a souvent frappé aveuglément, comme le rappelle encore aujourd'hui Oradour-sur-Glace, que vous connaissez sûrement.
Laissons après toute cette tourmente au Bibi le mot de la fin, celui de la libération.
Le 27 août 1944, la capitale auvergnate est libérée. Bibi assiste à ce moment. Voici ce qu'il la raconte. J'ai l'honneur de conduire la voiture des grands chefs le jour de la libération de Clermont. Gaspard et Prince étaient de la première voiture. Moi, conduisant le nouveau préfet. Adrien Mabru et le tonton venant derrière. C'est du délire. Je reconnais en tête les camarades Basse-Coulergue, Perry, père et fils, le commandant Martial, Pinson, combien de ceux qui en sont passés par l'Arfeuille.
On retrouve certains d'entre eux sur les photos du défilé du 2 juillet 1944 que Monsieur Roseau nous a confié.
Oui, tu as raison, les noms étaient remarqués pour ne pas oublier. Bibi termine ainsi son récit. C'est fini pour nous, c'est bien fini. la capitale de l'Auvergne est libérée. Je pense à mes malheureux camarades, ces jeunes, ces braves qui avaient tant pensé à cette journée. John Anderson, Dumoulin, Monégier, Bolaton et tous les autres, je pense aux prisonniers, aux malheureux déportés et à ceux qui ont connu l'horreur des camps. Les plus martyrisés, les plus châtiés, les plus pitoyables. C'est la victoire. Elle sera complète, totale, en mai 45, mais à quel prix ?
La libération de Clermont-Ferrand s'est déroulée sans grosse bataille ni destruction matérielle importante. La poursuite de la libération s'effectue au rythme du repli des colonnes allemandes poursuivies par les troupes du FFI. Ainsi, tandis que les Allemands fuient sur la route de Rion, les FFI entrent dans la capitale auvergnate. Le 31 août 1944, les FFI d'Auvergne ont achevé, seuls, la libération de la région R6. Maintenant, je vous laisse avec la musique de Bachoun, La nuit je mens.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, Gézère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? La saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho?
J'ai pris les armes pour la liberté de tous. Cette citation est présente sur la statue de Vercingétorix à Clermont-Ferrand. Cette phrase s'applique à tous les résistants qui ont combattu pour la France. Après la guerre, il est important pour ceux qui ont survécu de perpétuer la mémoire de leurs compagnons morts.
J'aime rappeler le souvenir de ceux qui ne sont plus là. Maintenant, peut-être que je suis un des derniers, alors je veux maintenir la flamme de ce qu'on avait quand on était ensemble. Voilà.
Moment assez émouvant de cette interview, se souvenir de ceux qui ne sont plus là et qui ont combattu dans l'ombre.
Le souvenir de ceux qui sont morts est omniprésent dans les documents que nous avons. Les nombreux articles de La Montagne sur les commémorations nous le rappellent. D'ailleurs, plusieurs parmi nous y participent parfois avec l'école de musique sous les chavanons de Bourlastic.
Te souviens-tu, Marianne ? Une chanson interprétée par Gérard Vercher appelle aussi à se souvenir de ses combattants pour la liberté. En voici quelques passages. Te souviens-tu, Marianne, d'Albert et Pablo ? Te souviens-tu d'Aldo et Vlado, de Pablo, le marin criant « Biba la muerta !» en riant nos trois couleurs brandies à bout de bras, d'Aldo, le plâtrier peintre, grattant son banjo, en chantant à tue-tête « Abanti Populo !» Te souviens-tu, Marianne, de ses compagnons ? Te souviens-tu, Marianne, comme nous les aimions ? Je n'ai pas oublié, je n'oublierai jamais.
Vous savez que Maurice Farjex, Bibi, quoi, a choisi de laisser à la fin de son témoignage un poème, Petit soldat, qui rend lui aussi hommage à un de ses camarades polonais. Il a couru, le polonais, dans les forêts, dans les clairières, il a couru dans la rivière quand les Allemands nous poursuivaient. Il va mourir, le polonais, près du bois, dans la grange basse, près du puits, que sa voix, hélas, près des copains à son chevet. Après tant de jours, il repose, sans écrit, sans chant, sans prière. Oublié à l'heure dernière, perdu au fond du cimetière, sa tombe anonyme et morose, nous irons lui porter des roses.
Ne pas oublier, c'est pour ça qu'après la guerre, des anciens résistants s'engagent dans des associations. Ils éprouvent le besoin de raconter et de prévenir les jeunes générations. Nous, quoi.
Bibi nous interpelle d'ailleurs. Jeunes, serrez-vous ces arbres nouveaux. Serez-vous ces arbres nouveaux qui, en cas de tragédie, combleront les vides, se dresseront contre ceux qui tenteraient de les asservir.
Bref, tous nous rappellent que demain, c'est nos choix qui feront la société. Alors je vous le demande à vous, l'avenir est-il un long passé ?
Si nous retenons les enseignements de nos anciens, je ne pense pas. Mais c'est de notre responsabilité à tous, ne pas être indifférent.
Indifférent au terreau qui mène au pire.
Ce terreau, c'est le mélange de haine, de préjugés, de racisme, de discrimination et de violence. Être indifférent à tout cela, c'est ça qui risque de conduire nos démocraties vers le pire si nous n'y prenons pas garde.
Rappelle-toi à la fin de Nuit et brouillard, comme un avertissement, qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux ? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre ? Nous qui feignons de croire que tout cela n'est que d'un seul temps, d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas que l'on crie sans fin.
Oui, c'est un avertissement qui nous invite à lutter contre l'indifférence, aux injustices et aux violences, à s'engager à notre tour. S'engager, c'est déjà résister.
Pour clôturer cette émission spéciale consacrée à la résistance en Auvergne, nous souhaitons remercier les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet.
D'abord, nous remercions Radio Vassivière qui nous a accueillis, notamment Rodolphe et Hugo qui ont été très patients et qui nous ont apporté leurs conseils de pro.
Nous remercions également Yvan, directeur de l'Espace Jeune, qui nous a chaleureusement reçus ce matin.
Ensuite, nous remercions Monsieur Allègre, ancien résistant de 93 ans qui a pris le temps de nous raconter son histoire.
Et aussi Monsieur Roseau qui nous a accompagnés tout au long d'une matinée sur les routes auvergnates enneigées.
Nous remercions également Madame Marceau, notre professeure de français, qui nous a aidés à travailler sur les poésies engagées lors de l'occupation nazie.
Nous n'oublions pas notre ancienne prof de français, Madame Pavoni. Sans elle, notre projet de radio n'aurait sûrement pas pris vie.
Un grand merci à notre surveillante Mélanie qui nous a accompagnés tout le long de cette superbe journée.
Pour continuer, nous remercions Madame Imbaud qui nous a fourni des documents, ce qui a facilité nos recherches d'informations pour le concours de la Résistance nationale.
Nous remercions fortement Madame Bachmann, responsable du site Jalon pour l'histoire du temps présent de l'Institut national de l'audiovisuel. Son autorisation nous a permis de diffuser les archives que vous avez pu entendre. Nous faisons une spéciale dédicace à nos camarades de classe qui n'ont pas pu être présents. Cette émission aurait été impossible sans leur contribution aux travaux de recherche et d'écriture. Pour finir, nous remercions notre merveilleux prof d'histoire qui nous a accompagnés tout au long de cette expérience. On espère que notre résultat final lui fera oublier son stress subi pendant ces 4 dernières heures. Encore un grand merci, Monsieur Dumoulin, de la part de toute la classe. Pour finir, si cela vous a plu...
Si notre live nous a plu, vous pouvez toujours consulter notre site Radio M depuis l'ENT public du collège de Willy Mabru de Bourg-Lastic. Merci à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jardin,
sur les coins de mon enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
sur ton échiffon d'azur,
sur le temps soleil moisi,
sur le lac lune vivante,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des sombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne.
Sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade,
j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur ton toucher accordé,
sur le front de mes amis,
sur chaque main qui s'étend,
j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits,
sur mes phares écroulés,
sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Sur la santé revenue,
sur le risque disparu,
sur l'espoir.